Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous ouvrirons ce journal avec l'entretien accordé à nos confrères de Ouest-France par Emmanuel Macron, entretien dans lequel le chef de l'État s'en prend notamment et de manière assez inattendue aux grands intérêts financiers et ceux des marchés ainsi qu'à la mondialisation. Quand Bruxelles réitère ses inquiétudes sur la future fusion entre Alstom et Siemens, l'exécutif européen a envoyé une communication des griefs, ce qui, dans le jargon bruxellois, constitue une sorte d'acte d'accusation pour éviter que ce mariage ne tue la concurrence.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, en croire la presse britannique ce matin, un accord aurait été trouvé sur le Brexit.
Oui, plus exactement, cet accord donnerait aux établissements financiers britanniques un accès à minima au marché de l'Union européenne après la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. Au Sri Lanka, après avoir limogé illégalement son Premier ministre, le Président a finalement accepté de convoquer le Parlement. Ce sera lundi prochain. Enfin, nous irons également en Nouvelle-Calédonie à 3 jours maintenant du référendum d'indépendance. Invité de ce journal dans une vingtaine de minutes, Samuel Ribot, cofondateur de l'agence locale de presse et ancien journaliste en Nouvelle-Calédonie. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans la politique avec nos invités, deux romanciers, Benoît Dutertre et François Médéline. L'un et l'autre ont puisé dans le réel matière à fiction. Alors Emmanuel Macron fait-il un bon personnage de roman ? On en parlera avec eux à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. En ce jour de la Toussaint, fête de toutes celles et ceux sanctifiés par le don de la grâce divine, voilà qu'un nouveau sondage publié aujourd'hui vient attester une fois de plus de la disgrâce présidentielle. Avec 21% seulement d'opinion favorable, la cote de popularité du président Emmanuel Macron est à son plus bas niveau depuis le début du quinquennat, moins 4 points en un mois. Alors dans ce contexte, disons, peu favorable au chef de l'État, Emmanuel Macron a beau s'être mis au vert pour souffler un peu, il n'en reste pas moins omniprésent. Pour preuve, cet entretien accordé à Ouest-France est publié dès hier soir, où quand la célèbre formule du « en même temps » ne servirait pas seulement à surmonter les contradictions, mais répondrait aussi à cette fascination de l'homme moderne pour la capacité d'être à la fois ici et ailleurs. Quoi qu'il en soit, et alors qu'il s'apprête à célébrer la semaine prochaine le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le chef de l'État se dit dans cet entretien frappé par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle qui régnait durant l'entre-deux-guerres dans les années 30. Emmanuel Macron appelle à résister en portant, je cite, la vigueur démocratique et républicaine. Alors, cette stratégie consistant à se présenter en seul rempart contre les extrêmes n'est pas franchement nouvelle. Ce qui apparaît plus surprenant en revanche, ce sont ces attaques, toutes proportions gardées, contre la mondialisation et les institutions financières. Les précisions de Frédéric Seys.
Oui, depuis plusieurs mois, Emmanuel Macron alerte sur les ressemblances entre la période actuelle et les années 30. Le chef de l'État cite en particulier le retour du protectionnisme, l'essor des nationalismes qu'il qualifie de lèpre. Et effectivement, dans cette interview à Ouest-France, Emmanuel Macron s'en prend aussi au système financier. Il dénonce ainsi les grands intérêts financiers et ceux des marchés qui dépassent parfois la place que les États peuvent prendre. Le président de la République évoque aussi les coups de boutoir de la mondialisation. Alors c'est un champ lexical qu'on lui connaissait peu jusqu'ici. Pendant la présidentielle, face à des adversaires volontiers hostiles au libéralisme, il campait au contraire le candidat de l'ouverture et des opportunités économiques liées à la globalisation. Mais le chef de l'État ne veut pas être accusé de déni. À quelques jours de son déplacement dans l'Est et dans le Nord pour le centenaire de l'armistice, Emmanuel Macron insiste sur la désindustrialisation qu'ont subi ces territoires, une disette économique à laquelle il ne faudrait surtout pas répondre par la fermeture et le nationalisme, suggère entre les lignes le président, au risque, dit-il, de voir l'Europe se démembrer et d'être bousculée par des puissances extérieures qu'il n'hésite pas à nommer. La sécurité qui dépend des choix américains, dénonce Emmanuel Macron, une Chine de plus en plus présente dans les infrastructures essentielles et enfin une Russie parfois tentée par la manipulation, regrette le président français. Peut-être une trame pour le discours qu'il doit prononcer à Paris le dimanche 11 novembre sous l'Arc de Triomphe, devant une soixantaine de dirigeants mondiaux.
Pas de cri de joie, mais du soulagement mêlé encore de scepticisme. Rassemblés devant leur aciérie en sursis, les salariés d'Ascoval ont appris hier que le cabinet d'expertise jugeait crédible et viable le projet de reprise de leur usine de Saint-Saulve par le groupe Altifort. Du coup, en assemblée générale, ils ont voté la reprise du travail lundi prochain de son côté. Et même s'il estime que des fragilités persistent, le gouvernement dit vouloir régler ce dossier d'ici au début décembre. Comment favoriser l'émergence de grands champions européens sans pour autant tuer la concurrence? C'est là tout l'enjeu notamment du projet de rapprochement entre les activités ferroviaires du français Alstom et de l'allemand Siemens. Alors sur ce point, les craintes de l'exécutif européen sont déjà connues, ce qui n'a pas empêché les autorités de la concurrence de l'UE d'envoyer à nouveau une liste donc des griefs concernant cette fusion et en particulier le risque que ce possible futur géant industriel occupe une position surdominante sur les marchés. Les précisions à Bruxelles de Quentin Dickinson.
Lundi, la Commission a fait connaître aux intéressés la liste précise de ses préoccupations. Alstom et Siemens ont 10 jours pour y répondre et la décision tombera 3 mois après. Personne ne doute que cette fusion se fera, mais pour prix de celle-ci, la Commission peut exiger que les protagonistes se défassent de l'une ou l'autre de leurs activités actuelles afin de laisser une chance, même limitée, à leurs concurrents. Au premier rang de ceux-ci se trouve le groupe canadien Bombardier, qui par rachat successif d'entreprises ferroviaires européennes s'est hissé au niveau de partenaires industriels réguliers, aussi bien de l'Alstom que de Siemens, mais qui redoute que l'on ait moins besoin de lui après la fusion. Et puis il y a les petits qui grignotent depuis moins de 15 ans des parts de marché spécialisées et qui aspirent à jouer eux aussi dans la cour des grands. L'Espagnol CAF, le Tchèque Škoda et surtout le Suisse Stadler. Le casse-tête pour la Commission européenne, c'est de garantir les règles de la libre concurrence tout en favorisant l'éclosion de champions industriels européens de taille mondiale. Et la véritable crainte ici, c'est le jour venu, le débarquement en Europe des constructeurs ferroviaires chinois déjà très présents en Afrique.
Et j'ajoute que de son côté, le gestionnaire du réseau ferré britannique avait opportunément écrit la semaine dernière à la commissaire européenne à la concurrence pour lui faire part de ses inquiétudes. Voilà qui nous conduit tout naturellement sur les rails du Brexit. Ce matin, le quotidien britannique The Times annonce que Londres et Bruxelles sont parvenus à un accord sur les services financiers pour maintenir l'accès britannique au marché européen après la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors l'information du Times, citant des sources gouvernementales, n'a pas encore été officiellement confirmée. Quoi qu'il en soit, il y est question notamment d'un régime d'équivalence élargie. De quoi s'agit-il?
Alors actuellement, la situation est la suivante. Toutes les banques étrangères qui veulent développer leurs activités dans l'Union européenne peuvent le faire depuis Londres. On appelle ça le passeport européen. Ça, c'est fini avec un départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le négociateur Michel Barnier ne s'en est jamais caché. Il est impossible d'accorder à la City de Londres une sorte de régime à part. Et les banques qui y sont implantées, britanniques ou étrangères, s'y sont d'ailleurs préparées en déménageant certaines de leurs équipes à Paris, Francfort, Dublin et Milan. N'empêche, étant donné l'importance de la City de Londres pour les activités financières, étant donné les centaines de milliers de contrats en cours d'assurance, de gestion, d'investissement, il est très difficile et surtout dangereux, pour la panique que cela peut créer, d'envisager un Brexit dur et désorganisé. La Commission européenne et la Grande-Bretagne ont donc tout intérêt à trouver un arrangement. Alors tant que la Commission ne confirme pas l'information qui a été donnée par le Times, il est difficile de dire précisément ce que serait ce régime d'équivalence élargie. Le ministre britannique chargé du Brexit n'a pas non plus confirmé qu'un accord avait été trouvé, mais il y a selon lui dernièrement des progrès. Alors selon le Times, les entreprises financières de la City pourraient toujours avoir un accès au marché européen dans le cadre d'un accord plus large qui reste à négocier, mais en plus il y aurait une sorte de coopération renforcée entre l'Europe à 27 et la Grande-Bretagne sur les questions de régulation financière. Si l'Union européenne considérait par exemple que de nouvelles règles décidées par Londres sont inacceptables, l'accès à son marché ne serait pas d'emblée interdit, il y aurait une forme de discussion. Voilà, c'est assez ténu comme élément, mais cela a visiblement rassuré les marchés financiers et c'était aussi le but. La livre sterling a bondi depuis hier.
Merci Marie Viennot. La réserve fédérale américaine a proposé hier d'assouplir nettement les garde-fous réglementaires imposés aux grandes banques américaines après la crise de 2008, en clair alléger les règles auxquelles les établissements étaient soumis depuis la crise des subprimes qui avait précipité le monde dans la récession. Cette décision n'a pas fait l'unanimité au sein du conseil d'administration de la Fed, mais elle confirme la volonté de dérégulation affichée par l'administration Trump. Donald Trump promet toujours plus de soldats face aux migrants. Depuis la Floride hier, le président américain en encore durci son discours de campagne sur l'immigration après avoir évoqué l'envoi de 15 000 soldats à la frontière avec le Mexique. C'est trois fois plus que ce qu'évoquait la Maison-Blanche mardi dernier et c'est surtout l'équivalent du nombre de troupes déployées actuellement en Afghanistan. Enfin, toujours aux États-Unis, le FBI a ouvert une enquête pour déterminer si des individus avaient tenté de discréditer le procureur spécial Robert Mueller en payant des femmes pour qu'elles l'accusent d'agression sexuelle, une machination grossière visiblement orchestrée par l'extrême droite et qui visait donc à faire tomber l'homme chargé d'enquêter sur une possible collusion entre l'équipe de campagne du candidat républicain Trump et des responsables russes. Au Sri Lanka, le président Sirisena a finalement accepté de convoquer le Parlement lundi prochain. Le chef de l'État l'avait suspendu il y a une semaine après avoir limogé son premier ministre, un geste considéré comme illégal et qui avait entraîné d'importantes manifestations dans la capitale. À présent, le camp présidentiel va donc devoir prouver qu'il bénéficie de la majorité à la Chambre. C'est une correspondance dans la région signée Sébastien Farsi.
Les manifestants et les pressions diplomatiques ont donc fait plier le président. Maithripala Sirisena convoque le Parlement 11 jours avant la date prévue et son nouveau premier ministre Mahinda Rajapakse va donc devoir confirmer sa légitimité en prouvant qu'il s'appuie bien sur la majorité des 225 députés sri-lankais. Les tractations redoublent donc d'intensité à Colombo. Jusqu'à ces derniers jours, le nouveau chef de gouvernement n'avait pas la majorité, même s'il a réussi à retourner 4 députés du camp opposé en les nommant ministres. D'autres pourraient être attirés par des offres alléchantes sous forme de place au gouvernement ou d'avantages pécuniaires de la part de Mahinda Rajapakse, cet homme qui a été président du pays pendant 10 ans et qui est accusé d'avoir amassé une fortune colossale. Pékin, du reste, est très intéressé par le retour de celui qui avait ouvert l'île aux investissements chinois et son influence pourrait être considérable. Il n'en reste que même si Mahinda Rajapakse obtient la confiance du Parlement lundi, la destitution du précédent chef de gouvernement est toujours considérée comme inconstitutionnelle. La crise politique est donc loin d'être terminée au Sri Lanka.
Si l'acquittement hier par la Cour suprême pakistanaise de la chrétienne Asia Bibi a pu être reçu non seulement comme un soulagement mais aussi une belle avancée en matière de liberté religieuse, la situation n'en reste pas moins extrêmement tendue. Aujourd'hui encore, des islamistes radicaux ont bloqué les routes des principales villes du pays en guise de protestation. Et puis toujours au Pakistan, une décision vient de jeter cette fois-ci un froid parmi les organisations humanitaires. Début décembre, 18 ONG internationales devront avoir quitté le pays, expulsées sans explication, si ce n'est des autorités soupçonneuses qui voient généralement ces ONG comme des relais des agences d'espionnage occidentales. Un rapport de l'ONG Human Rights Watch publié aujourd'hui dénonce les abus sexuels dont sont victimes dans le plus grand des silences les femmes en Corée du Nord. L'enquête se base sur des entretiens avec une cinquantaine de transfuges nord-coréens et dépeint un tableau lugubre des viols et autres abus perpétrés, notamment par les personnels de sécurité, tels que les gardes frontières, mais aussi des civils en position d'autorité, en particulier des gérants d'entreprises publiques. À 3 jours du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, les derniers meetings se sont achevés, sans véritablement déplacer les foules d'ailleurs. Il faut dire que la campagne électorale est assez peu présente dans le centre de la capitale Nouméa. Loin de la ville, en revanche, là, les drapeaux le long des routes sont de plus en plus visibles, et notamment le drapeau Kanaki du FLNKS, au point que certains ont choisi d'accrocher à leur tour un drapeau tricolore, comme a pu le constater sur place notre envoyée spéciale Mathilde Dehimi.
La maison de Ghislain, posée sur la colline, mer dans le dos, domine la propriété et ses 2000 bovins.
Quand je suis arrivé ici en 85, là, il y avait une maison en tôle. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone. Je n'étais pas propriétaire encore. Le premier truc que j'ai mis, c'est le drapeau français. Le gros, là, je l'ai mis depuis 3-4 jours. Pourquoi qu'ils mettraient des drapeaux kanak partout et que nous, on ne mettrait pas des drapeaux français? Je suis trop fier de mon drapeau.
Sa famille, originaire de l'autre bout de l'île, a été expropriée par les Kanaks en 1984.
C'était tellement bien quand on était à Thiou. Personne n'aurait imaginé ce qui s'est passé. Tu sais ce que c'est que te faire tirer dessus? Après, quand il a fallu partir, j'ai brûlé la maison des parents, celle de mon frère. Je voulais rien laisser. C'est toujours d'actualité, hein, on ne peut pas l'oublier. Hein. Et là, je vais aller jeudi pour faire les tombes là, à Thiou. Et je vais même sur les tombes des Mélanésiens qui ont travaillé pour nous.
Ghislain Santa Cruz n'est pas inquiet pour le résultat du scrutin. Lui aussi en veut aux politiques de ne pas avoir discuté plus tôt pour avancer.
Quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se bat pour rester français. Là, moi, où j'ai peur pour ici, c'est que les Chinois viennent envahir. Et ça, on est à la porte.
Si ça se passe mal, on est prêt, dit-il. Et s'il y a des bavures, ça pourrait se payer cher. Mais au lendemain du référendum, rien ne changera, dit Ghislain.
Et pour évoquer toujours ce référendum, donc invité de ce journal, avec nous en studio Samuel Ribaud, cofondateur de l'ALP, l'agence locale de presse, ancien journaliste en Nouvelle-Calédonie. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question monsieur Ribaud, on vient de l'entendre dans ce reportage de Mathilde Hémy, les tensions entre Kanak et Caldoche ne sont pas totalement apaisées. On sent bien dans ce témoignage à quel point le poids du passé est encore prégnant. Or, dans la mesure où l'issue du scrutin ne fait a priori guère de doute, le nom de devrait assez largement l'emporter. Faut-il craindre une possible explosion de violence ?
Alors, explosion de violence, je ne pense pas. Les accords qui ont été signés il y a 30 ans étaient justement destinés à mettre un terme à ces flambées de violence qui ont causé plus de 70 morts en quelques années sur le territoire, ce qui ramenait à la population est très très important pour sortir d'un climat de guerre civile qui était le réel climat qui régnait à l'époque en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il va falloir faire attention, effectivement, comme vous le disiez, avec le résultat de ce vote qui est connu, aussi saugrenu que ça puisse paraître, et dont l'officialisation, effectivement, pourrait donner à certains l'envie de triompher et pourrait éveiller chez d'autres un sentiment d'amertume, un sentiment de défaite. Il y aura toujours, de chaque côté du spectre politique, des gens pour agiter ce résultat et essayer de tirer les marrons du feu, puisqu'il y a une autre élection qui se profile derrière le référendum. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler et qu'elle a un rôle très important.
Une question de Stéphane Robert.
Pourquoi est-ce que le résultat est aussi certain ? Pourquoi est-ce que il est connu ?
Parce que le rapport de force électorale est connu. La lecture des précédents scrutins a amené un certain nombre d'enseignements qui vont tous dans le même sens. La liste électorale référendaire, qui est donc une liste électorale spéciale, accueille 46% de Kanak. 46% de Kanak, même s'ils votaient tous pour l'indépendance, ce qui ne sera pas le cas, ça ne ferait jamais un vote positif en faveur de l'indépendance.
Alors il y a une liste électorale spéciale qui a été mise en place. Tout le monde ne vote pas à ce référendum. Il y a une population de 290 000 habitants en Nouvelle-Calédonie. Il y a 174 000 personnes seulement qui sont inscrites sur ces listes électorales pour que seuls ceux qui sont installés depuis longtemps et durablement en Nouvelle-Calédonie votent. Hein, c'était le but. Est-ce que ça génère des tensions et des frustrations ?
Alors, pour préciser effectivement ce que vous venez d'évoquer, il y a 35 000 personnes qui habituellement votent pour les élections municipales, les élections législatives, présidentielles, et qui se trouvent privées du droit de vote pour le référendum et également pour les élections provinciales, locales. C'est une situation qui est effectivement assez compliqué à vivre lorsqu'on veut s'exprimer, lorsqu'on veut apporter son suffrage qui concerne un territoire sur lequel on vit, sur lequel on a établi une famille, peut-être fonder une entreprise ou on paie des impôts. C'est une situation particulière. Néanmoins, les Calédoniens et même les Calédoniens les plus récents sont conscients que lors de la signature de ces accords, la question du corps électoral était fondamentale. Il était impensable pour les indépendantistes de ne pas avoir de garantie qui leur permette d'éviter un afflux d'électeurs en provenance de métropole dont on aurait facilement imaginé qu'ils se seraient prononcés contre l'indépendance. Donc ça, c'est acquis, c'est compris. Ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre. Bien entendu, c'est pas facile à vivre.
Est-ce que le vote sur l'indépendance est perçu comme encore aujourd'hui une possible revanche sur la colonisation, ou est-ce qu'on a dépassé ce stade-là ?
On a entretenu, en tout cas, l'idée de la revanche. Mais en même temps, il est absolument impossible de ne pas prendre en compte la colonisation. La population kanak, on lui a pris sa terre, on lui a pris ses croyances, on lui a pris sa liberté, on lui a dit ce qu'il fallait penser, on lui a dit quel dieu il fallait révérer, on lui a dit comment il fallait s'exprimer. En gros, on lui a interdit de vivre alors qu'elle avait une tradition ancestrale de plusieurs millénaires. Le droit de vote pour les Kanaks, c'est il y a 60 ans. Vous imaginez, c'est 1957. Donc c'est il y a très peu de temps. Les blessures de la colonisation sont très fortes. Néanmoins, le vivre ensemble, pour reprendre l'expression qui est utilisée localement, a fait du chemin. Et l'idée d'indépendance avec ce qu'elle peut charrier de violence, de séparatisme, je pense que c'est une idée qui est minoritaire aujourd'hui. Maintenant, quand vous êtes un jeune, que vous avez grandi sans beaucoup de perspectives, que vous voyez autour de vous que ceux qui sortent du système scolaire sans diplôme, ce sont les Kanaks, que 95% des détenus dans la prison, ce sont des Kanaks, vous avez forcément un sentiment de revanche au fond de vous, et c'est ce sentiment qu'il faut circonscrire, en tout cas qu'il faut essayer d'accompagner pour éviter effectivement les débordements.
Avec les accords de Matignon, de Matignon, déjà de Michel Rocard, hein, puis ceux de Nouméa en 98, il y a eu une politique de rééquilibrage qui a été mise en place. On dit qu'elle est, il y a eu des avancées, mais rééquilibrage pour associer la population kanak justement à l'exercice du pouvoir et aux activités économiques de l'île. On dit que c'est imparfait. En quoi est-ce que ça a permis de réduire les écarts et en quoi c'est imparfait?
Alors, on va prendre le positif. C'est colossal ce qui a été fait en termes d'infrastructures, en termes effectivement de partage du pouvoir politique, en termes de transferts financiers qui ont permis de développer les provinces des îles et la province du Nord, qui sont là où on retrouve les majorités indépendantistes. On a fait franchir d'un bond. On a permis à ces gens-là d'accéder à une civilisation qui était circonscrite à Nouméa, qui était réservée aux blancs. On a formé des cadres, on a ouvert sur l'avenir. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non, évidemment, il suffit de se promener là-bas. Je crois que vous l'avez fait d'ailleurs, donc vous avez pu le constater. Mais il faut aussi ramener ça à une échelle de temps. 30 ans, ça n'est pas beaucoup pour rattraper une situation qui était une situation coloniale, avec des gens qui étaient dont la vie était régie par ce qu'on appelait à l'époque le code de l'indigénat, qui n'avaient pas le droit d'aller au restaurant à Nouméa parce qu'ils étaient noirs, qui n'avaient pas le droit de monter des entreprises, enfin en gros, qui n'avaient pas le droit de faire grand-chose.
Ça a changé. En quoi est-ce que la Nouvelle-Calédonie est une zone importante pour la France dans la zone pacifique? Et on l'entendait dans le reportage, la menace chinoise, est-ce que ça c'est une réalité?
Alors, pour répondre à la première partie de votre question, la Nouvelle-Calédonie, c'est une façade maritime immense. Hein, c'est une manière pour la France d'exister dans le continent, sur la zone, pardon, Asie-Pacifique, qui est la zone du 21e siècle. En tout cas, c'est comme cela que l'a défini Emmanuel Macron. C'est la zone où se jouent aussi aujourd'hui les équilibres stratégiques, les équilibres financiers, les équilibres économiques. Donc c'est un enjeu majeur et effectivement il y a un certain nombre de prédateurs dans la région. Auparavant c'était plutôt l'Australie, la Nouvelle-Zélande, aujourd'hui c'est la Chine. La Chine fait très peur. La Chine a pris pied au Vanuatu, qui sont les anciennes Nouvelles-Hébrides, qui est un territoire qui est situé au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Et comment dirais-je, ça n'est pas une arrivée qui se fait en douceur.
En quelques mots, qu'est-ce que la Nouvelle-Calédonie a de français et qu'est-ce qu'elle a de pas tout à fait français? Vous qui avez vécu 8 ans là-bas.
Oui, alors qu'est-ce qu'elle a de français? Elle a une tradition, elle a probablement des gens aussi râleurs qu'en métropole, elle a des attraits indéniables avec ce mix culturel entre ce que la France a pu apporter et ce que la Mélanésie, elle, a su conserver malgré le sort qui a été réservé aux populations kanak. Après, elle s'est développée, je dirais, de manière exogène, à côté de la France, en bénéficiant d'un certain nombre de choses venant de France et en même temps en développant son identité océanienne. Je rappelle que la population calédonienne, elle est constituée également de Vietnamiens, de Tahitiens, d'Indonésiens, de Wallisiens, de toutes ces communautés qui sont venues s'agréger et qui font aujourd'hui ce peuple multicolore.
Merci Samuel Ribaud, cofondateur, je le rappelle, de l'agence locale de presse, d'avoir été en direct avec nous. Merci également à Stéphane Robert. Et pour terminer ce journal, au lendemain de la fête des bonbons, autrement appelée Halloween, ce jeudi 1er novembre n'est pas seulement la fête de toutes celles et ceux qui ont été de lumineux témoins du Christ, c'est aussi la journée mondiale du véganisme, une journée destinée à sensibiliser le public sur la cause animale et l'antispécisme. Alors en France en particulier, des actions sont programmées un peu partout, comme c'est le cas en ce moment même, place du Palais Royal à Paris. L'association Vegan Impact y organise un happening stop à l'hécatombe, avec au programme des banderoles, des pancartes, mais aussi des militants égorgés comme à l'abattoir. Kevin Baudreau, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'objectif n'est pas de prolonger la fête d'Halloween, mais bien plutôt de privilégier le choc comme stratégie de communication.
Ouais, difficile en 2018 de ne pas avoir entendu parler des véganes. En s'attaquant à des boucheries, des associations n'ont pas hésité à adopter une certaine forme de violence. Ce n'est pas le credo d'Alexandra Blonde, l'association Vegan Impact, mais elle dénonce un certain prisme médiatique.
On en a beaucoup parlé, il y a eu des restaurants véganes, des commerces véganes, même là encore, il y en a encore qui sont vandalisés et on n'en parle pas. Pour moi, c'est des cas isolés et je trouve ça dommage qu'on fasse une telle pub là-dessus alors qu'il y a... Voilà, pour moi, c'est un bon coup de pub de la Confédération des bouchers charcutiers de France.
Alors, prisme médiatique ou pas, ces images marquent, elles prennent corps durablement dans l'opinion. À défaut de marginaliser ces militants, sont-elles bénéfiques pour la cause qu'elles défendent? Élément de réponse avec Valérie Giroux, chercheuse à l'Université de Montréal et auteure d'un Que sais-je sur le véganisme.
Beaucoup de gens qui pensent que ça peut être contre-productif parce que ça donne une mauvaise image au mouvement, aux véganes. En même temps, de faire parler de soi, de montrer le sérieux, la détermination qu'on peut avoir dans cette lutte politique-là, peut-être qu'en bout de ligne, ça peut être efficace, même si on pourrait juger que c'est moralement problématique de passer par ces moyens-là.
En France, on estime la part de vegan à moins d'1% de la population, des gens dont on parle beaucoup, donc, mais qui ont un petit peu du mal à rallier de nouveaux convertis.
Ça, les chiffres ne tendent pas à montrer qu'il y a une augmentation spectaculaire, en effet, du nombre de véganes. Il y a une augmentation, mais très lente et qui ne reflète pas, disons, la montée en popularité du véganisme en tant que tel.
Et paradoxalement, le meilleur promoteur de la cause végane, c'est peut-être le secteur agroalimentaire. Après le bio, les produits à base de protéines végétales sont de plus en plus présents dans les rayons. Selon Forbes, Danone vient d'investir 12,5 milliards de dollars pour devenir le numéro 1 du yaourt végétal en Occident.
Merci Kevin Baudreau, et précisons que le véganisme sera à l'honneur toute la durée en réalité du mois de novembre. Pour mieux comprendre donc ce mode de vie et ses implications, on termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Le ciel sera chargé sur une grande partie du pays avec de nombreuses averses, quelques éclaircies seulement, à l'exception de la Bretagne où le soleil là parviendra à se montrer. Le Gard, la Lozère, le Var et les Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance orange pour orages et inondations. Quant aux températures, elles seront comprises en général cet après-midi entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par François Charles de Mergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.